Conscience en liberté. Une émission pour déménager la biologie. Voilà. La biologie s'occupe de nous, nous allons nous occuper de la biologie. Car en observant de plus près la vie des animaux qui nous accompagnent sur cette terre, certaines notions apparemment scientifiques paraissent incongrues. Il semble que l'on ait toujours cherché à tirer des énoncés normatifs à partir des descriptions de la nature, et la science se confond avec une histoire beaucoup plus idéologique qu'on ne l'admet souvent. C'est ce dont nous allons parler tous les quatrièmes lundis de chaque mois, entre 18h et 19h30, sur 89.4, Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Science en liberté, une émission animée depuis l'Anjou par Thierry Laudet, avec la complicité de Siona et de Monique à Paris. Bonjour à vous, je suis Thierry Laudet pour animer une émission où nous nous amusons à questionner la biologie pendant 1h30. Ravi de vous retrouver pour cette émission. Il existe dans le corps humain 23 paires de chromosomes, dont une paire se distingue par son dimorphisme. L'un paraît à un chromosome d'une taille ordinaire, c'est le X. L'autre, le Y, est si minuscule qu'on l'a nommé chromosome accessoire. Or, s'il est bien un fait amusant, c'est que cette petite chose accessoire est précisément le chromosome qui contribue à édifier un corps masculin. Voilà bien l'humour de la biologie. À y regarder de plus près, la femme passait donc du statut réglementaire de simple dérivé d'une excroissance osseuse, la côte d'Adam, pour devenir d'un seul coup le fondement essentiel du corps vivant. La femme constitue le corps fondamental, l'homme le corps modifié par son sexe. Après des siècles de calomnies sexistes, le chromosome X prenait enfin sa revanche. Et comme l'humour se nourrit de ces additions, une autre chose encore doit être observée. C'est que le rôle de ce qui rend si fier le zizi des garçons, ce petit bout de chromosome Y, a été découvert par une femme. Titulaire du doctorat en 1903, c'est l'américaine Nettie Maria Stevens qui menait ses recherches et en 1905, ses recherches ont entraîné la découverte de la fonction du chromosome Y dans la détermination sexuelle d'un petit insecte, les ténébrios. Bonjour à vous, intrépides auditrices et curieux auditeurs. Nous allons donc parler aujourd'hui des femmes et de la science, au-delà des préjugés. Et pour ce faire, j'accueille une scientifique, une femme engagée, une spécialiste de la protection des plantes, Elisabeth Ramoris, présidente du planning familial 49. Bonjour Elisabeth. Alors les femmes ont-elles un problème avec la science ?
Et je crois que c'est plutôt la science qui a un problème avec les femmes, ou du moins qui en a eu dans l'histoire et dans les faits actuels. Encore que les femmes s'orientent tout de même beaucoup moins vers les études scientifiques et sont moins nombreuses actuellement dans les métiers scientifiques. Tout ça est à creuser pour essayer de comprendre comment on en arrive là, alors qu'objectivement, il ne devrait pas y avoir de regard masculin ou féminin sur les faits scientifiques.
En effet, mais si l'histoire se montre aussi cruelle envers les femmes, est-ce que ce n'est pas un peu de leur faute ?
Oui, peut-être, je ne sais pas. Je pense que c'est tout de même, toujours dans le fameux débat nature et culture, du côté de la culture qu'il va nous falloir chercher.
Eh bien, nous allons fouiller tout ça, nous allons essayer d'en comprendre davantage et surtout, évidemment, de voir ce qui se passe entre les femmes et la science.
Si tu t'imagines, fillette, fillette, si tu t'imagines que ça va, que ça va, que ça va durer toujours la saison, des à la saison, des à... saison des amours, ce que tu te gourres, fillette, fillette, ce que tu te gourres. Si tu crois petite, si tu crois que ton teint de rose, ta taille de guêpe, tes mignons biceps, tes ongles d'émail, ta cuisse de nymphe et ton pied léger, si tu crois que ça va, ça va, que ça va, que ça va durer toujours, ce que tu te gourres, fillette, fillette, ce que tu te gourres. Les beaux jours s'en vont, les beaux jours de fête, soleils et planètes tournent tous en rond. Mais toi, ma petite, tu marches tout droit vers ce que tu vois pas. Très sournois s'approche la ride véloce, la pesante graisse, le menton triplé, le muscle avachi. Allons, cueille, cueille les roses, roses de la vie, roses de la vie. Et que leurs pétales soient la mer étale de tous les bonheurs, de tous les bonheurs. Allons, cueille, cueille, si tu le fais pas, ce que tu te gourres, fillette, fillette, ce que tu te gourres.
Nous écoutions Juliette Gréco, fillette, fillette, si tu t'imagines. Une musique bien d'ici.
De retour sur 89.4 Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, où nous nous amusons à éplucher la biologie dans une émission faite pour tous les aventuriers et aventurières de la réflexion et autres dégourdis de la cervelle. Science en liberté.
Nous revoilà donc à mesurer quelle est la place que la science peut faire aux femmes. Si on connaît l'agonie d'Hypatie, la mathématicienne des coniques qui sera massacrée par les chrétiens, il faut aussi dire combien la science elle-même s'est défiée des femmes, au point de leur interdire longtemps les études pendant des siècles de patriarcat. Et ensuite, quand la science s'est ouverte aux femmes, Elisabeth, n'est-ce pas, les méthodes employées ne furent guère élégantes.
Mais oui, tout à fait. On peut parler notamment d'une grande oubliée du Nobel, Rosalind Elsie Franklin. C'était une chimiste britannique qui a vécu de 1920 à 1958, qui a travaillé en biologie moléculaire. Elle a réalisé des radiographies aux rayons X de l'ADN dans le cadre d'études sur la diffraction des rayons X. Elles ont été montrées à son insu par Maurice Wilkins à James Watson, du célèbre duo Watson and Crick's. Ces photographies ont été déterminantes dans la découverte de la structure de l'ADN. Et cela a valu un prix Nobel à Wilkins, Watson et Crick, en 1962.
Qui n'avait fait que regarder la photo de Rosalind Franklin pour découvrir cette structure en double hélice.
L'excuse des jurys Nobel est que Rosalind était décédée au moment où a été décerné ce prix Nobel, mais personne n'a eu l'élégance, au moment des discours, de mentionner le travail de Rosalind Elsie Franklin.
Et oui, les prix Nobel sont ainsi faits qu'on s'arrange quand même pour réduire un petit peu la présence des femmes.
Alors j'ai eu un grand plaisir quand même dans mon travail de pouvoir donner le nom de Rosalind Franklin à un des amphithéâtres d'AgroCampus Ouest, l'école d'ingénieurs où j'étais enseignante-chercheuse.
Ah oui, ça c'est bien déjà en effet. Il y a d'autres scientifiques oubliés comme ça par la science ?
Eh bien, est-ce que par exemple tu pourrais me citer le nom de la dernière prix Nobel française ?
Waouh, ça c'est une question terrible. Et non, comme mâle que je suis, je ne connais pas le nom de la dernière prix Nobel féminine.
Eh bien, il s'agit de Françoise Barisinousi, qui a reçu le prix Nobel en raison de ses recherches sur le virus du sida. Elle a travaillé en relation avec, avec le laboratoire Pasteur.
Pasteur, oui.
Avec le laboratoire Pasteur. Et elle a eu un co-prix Nobel avec Luc Montagnier.
Oui, d'accord. Le découvreur du virus.
Le découvreur du virus, voilà. Donc,
mais elle a eu, le prix Nobel était donc attribué aux deux en même temps ?
Le prix Nobel a été attribué aux deux en même temps pour ce travail de recherche. Si Montagnier est un nom très connu de tout le monde, Françoise Barré-Sinouzi est beaucoup moins médiatisée, probablement en partie par sa propre discrétion, mais aussi beaucoup parce que ça intéresse quand même un peu moins un travail de femme qu'un travail d'homme.
Oui, en fait, c'est vrai que au cours de l'histoire, l'accès aux études a compliqué de toute façon l'intégration des femmes en biologie. On sait que non seulement des grandes scientifiques ont pu être oubliées, mais que c'est aussi très difficile pour des scientifiques du quotidien, comme nous autres, je dirais, Elisabeth.
Oui, très souvent on entend, s'il y avait eu des femmes scientifiques, on le saurait. En oubliant ces difficultés d'accès aux études, et dans l'histoire, bien plus qu'aux études, difficultés d'accès aussi à une quelconque publication, puisque les quelques scientifiques qui ont pu arriver à produire des publications l'ont fait soit sous des noms inventés, des noms d'hommes, soit en confiant leurs écrits à des hommes pour les représenter.
Ah oui, les premières publications scientifiques faites par des femmes ont été faites sous des noms d'hommes.
La plupart de ces publications, en effet. Ah ouais. Et le travail scientifique féminin qui était accepté était un travail de traduction.
Oui, c'est plus facile.
C'est plus facile encore que il fallait pouvoir comprendre l'état des travaux qui étaient ainsi traduits. Et puis, on a également accepté les travaux d'illustration. Notamment dans le domaine biologique, les illustrations en botanique qui ont été souvent confiées à des femmes. À cette occasion, on peut remarquer que la botanique, qui a longtemps été un travail de féminin, notamment confié aux religieuses, leur a échappé quand on a compris qu'il y avait un organe mâle entouré d'organes femelles dans les fleurs. Et il n'était bien sûr plus tellement question de laisser les demoiselles s'intéresser à ça.
Il fallait travailler plus sérieusement, allons-nous dire. Mais c'était vrai aussi que les études ont été longtemps interdites, tout simplement, aux femmes.
Alors, tout simplement, études interdites ou réservées à quelques privilégiés qui pouvaient avoir des précepteurs chez elles. Et beaucoup des scientifiques qui ont malgré tout réussi à percer ont eu avec elles un père, un oncle, un mari qui les a épaulés pour pouvoir se former, s'informer, échanger avec les scientifiques de leur époque.
Alors, je pense que les premiers baccalauréats sont aussi très très tardifs, ce qui fait que la possibilité d'accès à l'université pour les femmes a été évidemment terriblement retardée. Il me semble même qu'on avait inventé au 19e siècle une surécole qui dépassait le baccalauréat, mais qui n'était pas encore l'université, pour que les femmes qui avaient déjà le baccalauréat puissent se retrouver à faire des études sans pour cela être en concurrence avec ces chers messieurs.
Mais même sans ça, quand le baccalauréat a été accessible aux filles, les programmes ont d'abord été différents, puis les mêmes. Mais quand moi-même j'étais dans les cours secondaires, nous avions encore des programmes différents en ce qui concerne la couture pour les filles et les travaux manuels pour les garçons.
Oui, comme quoi la couture ne serait pas un travail manuel, déjà pour commencer, et ensuite, effectivement, pour bien orienter femme au foyer, quoi qu'il en soit.
Tout à fait. Et quand j'ai moi-même passé des concours après des classes préparatoires, c'était à une époque où toutes les écoles d'ingénieurs n'étaient pas encore ouvertes aux femmes. La dernière école d'ingénieurs qui a été ouverte aux femmes, c'est l'école navale de Brest en 1993.
En 1993, oui, on ne parle pas d'une époque si ancienne que cela, hein, parce que finalement, on pourrait croire que c'était au 19e siècle qu'on avait affaire à de telles mentalités arriérées, mais dans la réalité, ça s'est poursuivi jusqu'à 1980-90. Il y avait beaucoup d'écoles encore qui étaient fermées, ou pas ouvertes, mais dans lesquelles il était quand même sérieusement décidé que les femmes n'avaient pas vraiment, vraiment leur place.
Tout à fait.
Alors, c'était un peu le cas en agriculture, par exemple.
En agriculture, oui, tout à fait. Pendant très longtemps, les écoles supérieures d'agriculture n'étaient pas prévues pour les jeunes filles. L'agro de Paris s'est très tardivement ouvert aux femmes. On a retrouvé dans les archives les discussions du conseil d'administration pour refuser les premières candidates féminines. Et je crois que l'argument qui a été trouvé est qu'elles étaient juives.
Ah oui.
Ce qui était quand même vraiment une excellente raison pour les refuser.
C'est très puissant, oui, comme refus, en effet.
Oui.
C'est un véritable scandale, en fait, qui a perduré pendant longtemps, puisque ça a accompagné la situation politique des femmes en France. Mais je suppose que même dans les pays où les femmes avaient accès à éventuellement au suffrage dit universel, il est possible aussi qu'il y ait eu quand même des phénomènes comme ça d'arriération mentale qui interdisaient aux femmes de se produire au baccalauréat ou dans des études similaires.
C'est assez complexe. L'Italie, par exemple, est un pays qui a été plus ouvert aux femmes universitaires que d'autres pays, bien avant qu'elles aient le droit de vote, le droit de participer à la vie politique. Donc, il y a eu des différences culturelles.
Oui, c'est des situations variées, quoi.
Ouais. Assez variées.
Et toujours est-il que quand même, dans une grande partie des études, on conçoit toujours que l'enseignement pour les petites filles va être un petit peu préservé autour de la maternité ou autour de la reproduction et qu'on évite très 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 régulièrement pendant toutes ces années 1900 de les orienter tout directement vers les techniques et les sciences.
Je ne dirais même pas autour de la maternité puisque ça c'était des sujets tabous qui n'étaient pas enseignés.
En plus.
Tout ce qui concernait le corps, tout ce qui concernait l'hygiène intime n'était certainement pas abordé. Par contre, tenir une maison, ravauder du linge, oui là ça c'était
Voilà.
Et l'économie domestique.
Tout à fait. Donc on faisait faire aux femmes, effectivement, toutes les tâches qui pouvaient paraître ingrates et on pouvait réserver la science aux hommes. Il y a pourtant eu des femmes célèbres. Je pense par exemple à Émilie du Châtelet qui a, en physique, fait parler d'elle, réussi à s'émanciper. Alors c'est vrai que c'était une noble, ça devait pas mal aider, ça, dans les années... on est en 1720 à peu près.
C'est de l'époque de Voltaire,
voilà,
oui.
Voilà, Voltaire.
Et c'était une grande traductrice.
Ah oui, elle a aussi travaillé à la traduction de textes scientifiques.
Elle a travaillé à la traduction, oui, tout à fait.
Oui, de Newton, c'est ça, je crois.
Voilà. Et elle était très épaulée par les hommes de son entourage.
Eh oui, car de temps en temps, il y a eu quand même des hommes qui se sont un peu émus de tout ça. Mais l'histoire est quand même répétitive, puisque même Barbara McClintock a attendu près de 20 ans pour que sa découverte des gènes sauteurs soit enfin reconnue, puisqu'elle n'a reçu le prix Nobel de physiologie qu'en 1983. Eh bien, décidément, nous allons devoir un jour nous sortir de cette biologie-là.
Son grand lit, frisant la quarantaine. Pas d'amant, pas d'amis, Marie n'avait pas de veille. Elle s'appelait Madeleine, fumait son joint de Marie. Se promenait en bas de laine, écoutait Fiori. Se piquait dans les veines, les fins d'après-midi. Vivait en quarantaine dans un deux pièces et demi. À cause de la liberté, égalité. Sa verveine à cause de la liberté, égalité, sororité. En un jour de semaine, l'univers plutôt gris et plat comme la plaine les avait réunis. Elle est trônée comme des reines au comptoir chez Kresgui. Marie cherchait une gaine et Madeleine un gris-gris à cause de la liberté, égalité, sororité. Des lointains étalons ont consolé leur.
morale de la rengaine, je la tiens de Marie, qui aux amours lointaines a rêvé toute sa vie. On ne trouve pas ce que l'on cherche, et c'est parfois tant mieux. Cela vous garde fraîche pour le baptême du feu, à cause de la liberté.
Eh bien, nous revoilà sur Radio Libertaire. Alors, je reçois aujourd'hui Elisabeth Ramoris, qui est donc la présidente du planning familial et une biologiste bien connue ici dans l'Ouest, qui nous parle du problème central des femmes et de la science, c'est-à-dire en fait combien de préjugés nous pouvons aujourd'hui commencer à traiter, à abolir. Et puis nous avons aussi abordé un cas particulier tout à l'heure, celui d'une chercheuse tout à fait intéressante, reconnue, qui a attendu plus de 20 ans que sa découverte soit primée, c'est Barbara McClintock.
Oui, cette scientifique a eu son prix Nobel en 1983. Elle est décédée en 1992 et si ses résultats sont brillants, par contre, les difficultés qu'elle a rencontrées dans sa carrière sont vraiment caractéristiques des difficultés des scientifiques à son époque. Difficultés pour poursuivre ses études scientifiques, difficultés pour obtenir ses diplômes et même le droit de s'y présenter, difficultés ensuite pour travailler en recherche, être acceptée en tant qu'enseignante, et elle a dû pendant un moment travailler grâce à des fonds privés que quelques personnes avaient réussi à lui trouver, je dirais presque en clandestine dans un laboratoire, de façon à pouvoir poursuivre ses recherches. Donc c'est réellement une réussite exemplaire parce qu'elle a eu, d'une part, par les sujets qu'elle a travaillés, dû s'opposer à l'opinion dominante scientifique de son temps, et d'autre part, dû s'opposer à un préjugé contre la présence de femmes dans le milieu universitaire et dans le milieu de la recherche.
Et oui, tous ces préjugés qui ont constitué autant d'obstacles ont effectivement longtemps reposé sur des idées préconçues. Hein. Heureusement, Julie Victoire Daubier a obtenu son baccalauréat, le premier baccalauréat pour une femme en 1861, mais l'université n'a vraiment ouvert ses portes qu'en 1880. Il faut se rappeler qu'en 1880-1879, des gens comme par exemple Gustave Le Bon disaient encore que tous ceux qui avaient étudié l'intelligence des femmes devraient reconnaître aujourd'hui qu'elles représentent les formes les plus inférieures de l'évolution humaine et qu'elles sont beaucoup plus près des enfants et des sauvages que de l'homme adulte civilisé. On voit que le préjugé de l'incapacité prétendue des femmes au raisonnement scientifique a été largement répandu et renforcé ensuite par l'interdiction de toutes ces études.
Probablement avec une petite pensée du genre « toutes des idiotes sauf maman ».
Voilà, c'est très probablement une des choses qui a conduit à cela. Mais ces préjugés ne sont pas absents encore aujourd'hui dans nos universités ou dans nos écoles ?
Les préjugés sont encore très forts dans toute la société et ils ont un impact très important sur l'orientation des filles, l'orientation des garçons aussi d'ailleurs. Cet impact est très important et il est préjudiciable aux filles, mais globalement aussi préjudiciable à la société. On commence à se poser des questions maintenant dans certaines entreprises pour se dire, mais où allons-nous trouver les ingénieurs, les scientifiques dont nous avons besoin si nous n'allons pas puiser dans le vivier des filles?
Oui, parce qu'en se privant de la moitié de l'humanité, évidemment, on se prive quand même de beaucoup de compétences.
Tout à fait. Alors, il est des secteurs en sciences où le problème ne se pose pas. Par exemple, en médecine, actuellement, on a dans les études de médecine à peu près 60% de filles. Et parmi les médecins, environ 41% dans les derniers chiffres que j'ai eus, disons autour de 40%. Ce qui n'est pas sans poser de problème, puisque quand on a posé les numerus clausus pour essayer de réduire le nombre de médecins pour que chacun puisse gagner bien sa vie, cette réduction du nombre n'a pas tenu compte du fait qu'un grand nombre de femmes s'engageraient dans la profession et ne seraient pas prêtes à travailler avec le même nombre d'heures que faisaient les hommes auparavant, et que les jeunes gens, les garçons qui s'engagent dans la profession, n'ont pas non plus l'intention de travailler 60 heures et plus par semaine. Ce qui fait que nous allons vers une diminution importante du nombre de médecins. Globalement, en science, on va plus retrouver les femmes dans les domaines liés à la biologie. Alors, ça veut dire la médecine, l'agronomie, où on arrive à peu près 65, environ 65% de filles. Dans les écoles vétérinaires, on dépasse les 70%. Et pourtant, dans tous les feuilletons qu'on voit à la télévision, le vétérinaire est un homme. Mais dans la réalité, bientôt, ce sera la vétérinaire et on n'aura pas tellement le choix. En chimie, alors là, c'est assez curieux parce que la chimie organique est féminine et la chimie minérale est virile.
Ah, voilà des choses bizarres. Les hommes aiment bien casser les cailloux.
Voilà, où les filles ne se sentent pas à leur place dans la chimie minérale. En tout cas, tout ce qui peut sembler plus proche du vivant ne pose pas de problème à être vu comme possible pour les femmes. Si on s'en écarte, ça devient plus difficile. Et puis alors, il y a tout un autre secteur qui est le secteur du care. Donc tout ce qui s'attache aux soins, que ce soit dans le domaine médical ou dans le domaine psychosocial. Là aussi, on est vraiment dans des domaines très féminins qui se féminisent beaucoup.
Oui, on réussit quand même maintenant à voir que ces déséquilibres correspondent aussi à une soif des études pour les études qu'ont eu les femmes depuis maintenant quelques décennies et qui heureusement a quand même rééquilibré un petit peu le monde du travail parce que malgré tout, si globalement il y a des métiers qui sont très féminins, d'autres qui sont très masculins encore, on a malgré tout maintenant affaire aux deux sexes dans la plupart des activités quotidiennes et on retrouve ça quand même heureusement aussi dans les laboratoires de recherche. Mais évidemment, ça n'a pas été si simple, d'autant que dans des domaines d'activité comme par exemple celui de la biologie évolutive, il faut se rappeler que Darwin, par exemple, lui-même, était relativement méfiant à l'égard des femmes. J'en veux ici un petit exemple.
Accrochez-vous les filles. Un extrait de Charles Darwin en 1871. L'homme a fini ainsi par devenir supérieur à la femme. Pour rendre la femme égale à l'homme, il faudrait qu'elle fût dressée au moment où elle devient adulte, à l'énergie et à la persévérance que sa raison et son imagination fussent exercées au plus haut degré. Elle transmettrait probablement alors ses qualités à tous ses descendants, surtout à ses filles adultes. La classe entière des femmes ne pourrait s'améliorer en suivant ce plan qu'à une seule condition, c'est que pendant de nombreuses générations, les femmes qui posséderaient au plus haut degré les vertus dont nous venons de parler produisissent une des plus nombreuses descendances que les autres femmes. Ainsi que nous l'avons déjà fait remarquer à l'occasion de la force corporelle, bien que les hommes ne se battent plus pour s'assurer la possession des femmes et que cette forme de sélection ait disparu, ils ont généralement à soutenir, pendant l'âge mûr, une lutte terrible pour subvenir à leurs propres besoins et à ceux de leur famille. Ce qui tend à maintenir et même à augmenter leurs facultés mentales et comme conséquence l'inégalité actuelle qui se remarque entre les sexes.
Alors voilà donc une belle pensée de Charles Darwin qui doit inspirer quelque chose, Elisabeth.
Ah oui, c'est assez joli. Effectivement, quand je l'entends parler de dressage, oui, je trouve que c'est tout à fait intéressant. Néanmoins, ça fait un peu écho, dressage, éducation. Bon, ce sont tout de même actuellement essentiellement des femmes qui forment les garçons et les filles. La majorité des enseignantes, la majorité des enseignants sont des femmes dans le primaire et dans le secondaire, et dans un grand nombre de familles, et en particulier dans la majorité écrasante des familles dites monoparentales, ce sont les femmes qui se chargent intégralement de l'éducation des enfants. Et donc, nous-mêmes, nous transmettons les préjugés que nous ont transmis les femmes de la génération précédente. Il est très très difficile de modifier cet état de choses. Je pense quand même en tant qu'enseignante que c'est par l'éducation qu'on peut changer ce genre de choses et par la lutte constante contre les préjugés, mais nous sommes très très fortement imprégnés. Et même lorsque les lois semblent égalitaires, la société, elle, fonctionne avec un temps de retard qui est impressionnant.
Alors c'est encore le rôle d'associations d'éducation populaire, comme par exemple le planning familial.
Ah, tout à fait. Je tiens beaucoup d'ailleurs à cet aspect association d'éducation populaire qui a pour objectif, en fait, que nous tous, nous puissions prendre en main notre destin. Et je trouve, par exemple, que dans le domaine scientifique, ce qui a été fait par les Sidéens pour orienter avec les équipes médicales la recherche en médecine contre le VIH est quelque chose de tout à fait remarquable dans l'esprit d'éducation populaire et que je souhaiterais vivement qu'on arrive à en faire autant dans le domaine de l'égalité entre les femmes et les hommes.
Oui, parce qu'il y a quand même tout un ensemble de jouets, tout un ensemble d'éléments éducatifs qui, dès le départ, sont en train d'orienter ça sur des rôles. Donc les sociologues en parleraient sans doute mieux que nous. Mais en tout cas, il est vrai qu'on n'approche pas la science avec autant de facilité quand on est une petite fille que quand on est un petit garçon.
Oui. Et ensuite, il y a aussi une absence de diversité. Quand on regarde les catégories socio-professionnelles, on en compte 31, les femmes actives se répartissent très majoritairement dans 6 de ces catégories seulement.
Ah oui, c'est effectivement très, très, très étonnant. Quelles sont ces catégories principalement féminines ?
Alors, je n'ai pas en tête les nomenclatures officielles, mais ce sont, comme je le disais, tous les métiers du care, l'enseignement, le commerce, mais le commerce au niveau des métiers les moins payés, bien sûr. C'est plutôt caissière que responsable du magasin. Donc, on a beaucoup plus de mal à orienter des femmes vers des métiers industriels, vers, par exemple, vers l'informatique. Il y a beaucoup de métiers dans lesquels il y aurait des possibilités, où il n'y a aucune raison qu'elles ne réussissent pas, mais qui semblent fermés, moins en raison d'aptitude réelle que, manque d'usage. Et quand j'étais enfant, j'ai vu des gens refuser de monter dans un bus parce que c'était une conductrice. Je crois que maintenant, bien souvent, on serait incapable de dire en descendant du bus qu'il conduisait. Et je crois que tout ce chemin est à faire dans beaucoup de professions.
Ah oui, d'autant que dans tous les secteurs, la misogynie est largement répandue et que la biologie ne fait sûrement pas une faute là-dedans. Elle est vraiment très présente aussi, cette phallocratie et cette misogynie.
D'entendre Elisabeth Jacquet de la Guerre, qui est une compositrice baroque, donc du XVIIIe siècle, que j'ai connue à travers une conférence que j'ai entendue un 8 mars, il y a 2 ans, à Angers, où on nous proposait de voir s'il y avait une différence de musique entre des compositeurs et des compositrices. Question qui, comme la question de femmes et sciences, ne devrait pas se poser, et qui en fait ne se pose pas. La seule différence, c'est que comme en sciences, eh bien, on ne les connaît pas pour celles qui ont existé, et très peu ont pu exister parce que très peu avaient accès, pas tellement à l'apprentissage. L'apprentissage de la musique se faisait bien dans les familles riches, mais au côté extraverti, à faire connaître leurs productions, si tant est qu'elles osaient faire des productions de musique.
Il y eut donc des femmes capables de faire de la musique baroque, qu'on se le dise. Alors évidemment, à toutes les aberrations et tous les préjugés de la biologie se sont ajoutés, assez récemment encore, des travaux qui vantent la dissemblance entre les cerveaux de l'homme et de la femme. Nous ne penserions pas pareil.
Et oui, les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Oui, on entend des choses pareilles. Et on a même publié des articles dans des revues de renom montrant des différences entre cerveau féminin et cerveau masculin qui, lorsqu'on a fait un regard plus approfondi, ont montré que le nombre de cas n'était pas suffisant, que les différences au sein de groupes femmes et les différences au sein des groupes hommes étaient supérieures aux différences entre les deux groupes, et donc que si différences il y a, elles sont extrêmement minimes. Alors, une des grandes auteures sur le sujet, c'est Catherine Vidal, qui insiste très fortement pour montrer à quel point la plasticité du cerveau est plus importante que sa préformation masculine ou féminine, même si, bien sûr, les expériences qui sont faites pendant la petite enfance ont une influence sur les compétences, mais ça n'est d'une part pas irréversible, et d'autre part, ça n'est pas le trait dominant du fonctionnement du cerveau d'un homme ou d'une femme.
Et puis il faut rappeler qu'en biologie, de toute façon, le cerveau est totalement indifférencié chez la plupart des espèces animales au départ. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un cerveau mâle ou un cerveau femelle. C'est évidemment au cours de chacun, de l'histoire de chacun, que l'expérience s'acquiert, qui va déterminer tel et tel comportement, avec aussi la relation aux hormones. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué, évidemment, que de penser qu'il y aurait une petite différence due à la taille. Hein. On a dit ça des fois avec Broca, par exemple, qui a été célèbre aussi pour empêcher les femmes d'entrer à l'université. Hein, il a quand même tout fait pour ça, ce brave garçon. Et il y a quand même pas mal de petites choses qu'on peut dire à travers ça. Mais il y a d'autres à côté biologiques encore que le cerveau.
Alors, par rapport à l'étude du corps, en fait, l'étude du corps féminin a été un sujet de science beaucoup moins important que l'étude du corps masculin, pour de nombreuses raisons. Déjà, l'étude du corps, d'une façon générale, pour des raisons religieuses, des raisons de... je ne sais pas si on peut dire de pudeur ou d'obscurantisme. L'interdiction de faire des dissections, par exemple, a conduit à une méconnaissance totale des organes génitaux pendant très très longtemps, même si on a de très beaux dessins faits par Léonard de Vinci, des organes génitaux masculins et féminins très très précis. Néanmoins, par exemple, l'étude du clitoris...
Il s'intéressait aussi aux dames, Léonard.
Il s'intéressait aussi au corps humain.
Voilà.
Et le corps humain, ça n'est pas seulement le corps de l'homme.
Ouais.
Et donc... oui, j'ai perdu le fil de ma pensée, là.
Tu nous amenais sur un sujet extraordinairement précis et intéressant, le clitoris.
Voilà, exactement, pour dire que les études d'anatomie et de physiologie sur le clitoris sont vraiment très très récentes et que la méconnaissance d'un grand nombre, y compris de médecins, sur cet organe est vraiment stupéfiante. Alors, je pourrais renvoyer à une excellente émission de la BBC qui doit être retrouvable sur Internet sur le sujet. C'est vraiment quelque chose qui est stupéfiant de voir à quel point on a pu ignorer cet aspect des choses. De même que les études sur le plaisir féminin commencent à peine par rapport à tout le travail qui a été fait sur l'érection masculine, le plaisir. Le Viagra pour femmes, pour le moment, on ne l'a pas vraiment. Et à l'inverse, par contre, la contraception, c'est féminin. On a beaucoup plus regardé les moyens de contraception impliquant pour les femmes le fait de prendre un comprimé tous les jours pendant des années que de voir ce qui pourrait être fait du côté des hommes.
C'est toujours associer la femme à sa maternité et pas nécessairement à sa vie totale, quoi, sa vie réelle.
Oui, on peut dire ça. Je pense que ce qui a longtemps défini la femme, c'est effectivement le fait d'être mère. Et qu'en dehors de ça, enfin, mère est quand même aussi gérante du foyer. Enfin, je pense que beaucoup d'hommes n'auraient rien pu faire dans la vie s'ils n'avaient pas eu une intendante.
Ça, c'est sûrement vrai.
Et ça se retrouve d'ailleurs dans les carrières scientifiques, mais plus généralement dans les carrières de cadre, où quand moi je cherchais du travail, en fait, mes collègues masculins voyaient l'avantage, eux, d'avoir une femme au foyer qui allait pouvoir s'occuper de toute leur intendance et les rendre extrêmement disponibles pour des déplacements qu'une femme aurait plus de mal à trouver chez un compagnon qui accepterait de faire ce travail. Et ça, c'est quelque chose qui est en train de disparaître à grande vitesse. Et ça oblige à changer aussi le mode de travail des cadres, de façon à ce qu'on tienne compte du fait qu'il n'y a pas que la vie de travail, qu'il y a aussi une autre vie, et que dans cette autre vie, il n'y a pas non plus que les tâches domestiques, il y a aussi les loisirs, les enfants, donc tout ça est quelque chose qui est en train de bouger, mais qui bouge lentement.
Et puis il y a d'autres préjugés coriaces, comme par exemple, tout le monde sait que les femmes ne savent pas s'orienter ou ne savent pas lire une carte.
Ah, on va encore appeler Catherine Vidal. Les femmes ne savent pas lire une carte. Quand j'étais en classe préparatoire aux grandes écoles d'agronomie, nous avions une épreuve au concours qui était une épreuve de lecture de cartes. Et donc nous avions, je crois, tous les 15 jours, une colle qui consistait à tirer au sort une carte et à faire une lecture de cette carte avec interprétation. Eh bien, quand on est formé, on apprend, on sait faire, on réussit le concours comme les garçons. Ça ne pose pas de problème. Et ce n'est pas une question d'un cerveau comme ci ou comme ça, c'est juste une question d'entraînement. Mais ce préjugé-là est vraiment très très fort et tellement intégré par les femmes qu'elles n'essayent même pas. Donc on arrive à effectivement formater les gens. Les expériences qui ont été faites ont montré qu'avec une semaine d'entraînement, on modifie tout à fait ça. Et les raisons qui sont données, c'est lié énormément aux activités dans l'enfance, où les activités des garçons étant plus tournées vers l'extérieur, vers des jeux interactifs, développerait davantage leur orientation que les femmes, les filles, plus tournées vers les travaux intérieurs.
Bon, oui, ça demanderait... Ça demanderait effectivement à être vérifié.
Ça demanderait à être vérifié, mais bon, c'est...
D'autant que chez les garçons, on encourage quand même largement la concurrence au détriment des tâches ménagères, si je puis dire, ou de l'intérêt à d'autres activités, ce qui fait qu'eux ne savent pas du tout s'orienter dans la cuisine. Je pense qu'il y a pas mal de garçons qui ne savent même pas trop où c'est la machine à laver.
Oui, effectivement, ça pose le sens de l'orientation ne va pas jusqu'à retrouver ses chaussettes dans le placard.
Voilà, effectivement. Et si maman avait dit tout ça, si maman avait expliqué tout ça.
Et papa.
Depuis ma plus tendre enfance, très tranquillement, je cherche toujours d'avance ce qu'on pense l'amant. Quand un garçon me demandait sa maternité, je le dirai pour d'elle. Si maman le veut, alors je veux bien. Si elle ne veut pas, moi je ne veux rien. Qu'on tâche de me débaucher, on m'offrait le chat perché. Dès je dis, je m'étais à pleurnicher. Si maman le veut, alors je veux bien. Si elle ne veut pas, il n'y a plus moyen.
Eh bien, c'était Florelle qui nous racontait ses malheurs. Et en effet, on a eu quelques-uns, la pauvre Florelle.
Nous sommes, vous êtes sur 89.4 Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, sans publicité, et dans une émission faite pour les cortiquer du bulbe, Science en Liberté.
Toujours à la recherche de la place que peuvent avoir les femmes en science, question qui ne devrait pas se poser, mais que nous continuons quand même à explorer. Et puis, il y a peut-être tant d'autres choses qu'on nous dit également. Par exemple, l'évolution pourrait dépendre des caprices féminins. Il fallut attendre, en fait, l'émergence de chercheuses féministes pour réduire le machisme de nombre de thèses biologiques. Alors, c'est Patricia Gobati qui a remarqué cela. C'est qu'une grande partie de la théorie de la sélection sexuelle en a été complètement bouleversée. Quand des femmes ont été introduites dans les laboratoires, ont commencé à faire de la recherche, on a pu comprendre d'un seul coup que l'évolution retrouvait le rôle du sexe féminin, qui jusqu'ici avait été confiné au rôle de passivité discriminante. On voit que la théorie s'est enrichie de toutes ces conceptions féministes, et notamment de cette conception du choix sexuel, qui dans les années 80 a donné quasiment la fonction primordiale à la femelle dans tout le jeu évolutif. Il y a d'autres modifications théoriques qui se sont additionnées, qui ont engendré parfois une grande confusion dans la compréhension des mécanismes évolutifs autour de la sexualité, mais il faut dire aussi qu'il y avait beaucoup de ménage à faire dans le vocabulaire. Et c'est une question qui continue d'exister, n'est-ce pas, Elisabeth ?
Ah, ce vocabulaire, oui, oui, effectivement. Enseignant la biologie, combien de fois je me suis heurtée à des textes qui déjà, a priori, considèrent qu'un animal ou une plante, mais c'est plus flagrant chez les animaux, c'est mâle. Donc, on parle d'une girafe, mais la girafe, c'est un mâle. Et on va dire une girafe femelle, c'est logique d'ailleurs. Mais ce qui pose problème, c'est pourquoi le type est-il mâle ? Dans son introduction, Thierry a bien dit que le fondamental, ce n'est pas le masculin, c'est bien le féminin. Et que on pourrait, s'il fallait partir d'un a priori, c'est plutôt l'a priori inverse qu'il aurait fallu prendre.
Bon. Donc on voit bien là qu'il y a une influence du patriarcat dans l'utilisation des termes, y compris donc en biologie.
Y compris en biologie. Alors je me suis longtemps amusée à montrer aux étudiants dans l'étude des pucerons, qui sont des insectes un peu particuliers, qui se reproduisent essentiellement par parthénogenèse. Ils peuvent faire jusqu'à une vingtaine de cycles parthénogénétiques.
Alors, la parthénogenèse, c'est l'art de se reproduire sans fécondation.
Sans fécondation, voilà. Donc des femelles donnent des femelles. Et on va avoir comme ça une trentaine de cycles successifs de femelles qui donnent des femelles. Et puis, à la suite d'un certain nombre de facteurs extérieurs, vont apparaître des descendants mâles à ces femelles. Et ces femelles vont s'accoupler avec les mâles. Eh bien, dans le vocabulaire des spécialistes des pucerons, on va à ce moment-là parler de femelles sexuées, comme si la trentaine de générations des femelles précédentes n'avaient pas de sexe.
Corne-guidouille, voilà donc des femelles qui ne seraient pas des femelles sexuées et d'autres qui seraient sexuées. Ça, c'est tout à fait rigolo. En fait, c'est vrai, malgré tout, qu'en biologie, on peut considérer que le sexe apparaît malgré tout avec le mâle. C'est-à-dire que c'est quand même le mâle qui va entraîner cette tâche essentielle à la reproduction, qu'est la fécondation.
Oui, admettons. Cela dit, une fécondation, c'est bien la rencontre de deux gamètes.
Ah, c'est pas le mâle qui...
Non, tu croyais ? Je crois que là, on pourrait plaisanter très très longtemps, mais le vocabulaire est amusant, en fait. Ouais. Je préfère en rire. Néanmoins, il nous faut réajuster nos lunettes, nos loupes binoculaires régulièrement pour se rappeler que le vocabulaire, alors de la langue française qui donne un genre aux mots, et même dans les langues où il n'y a pas de genre, la langue conduit à penser a priori un animal type comme étant un mâle. Donc il faut qu'on fasse un effort sur soi-même, qu'on soit un chercheur ou une chercheuse, pour sortir de cette pensée. Alors c'est un peu ce que tu voulais dire tout à l'heure en parlant des approches féministes. Je ne pense pas que ce soit féministe, mais en tout cas...
Patricia Gobati réclame tout à fait l'approche féministe en biologie. notamment quand elle a écrit tout son texte, je ne sais pas si tu t'en rappelles, sur la thématique de la sexualité, dans laquelle elle notait que bah, chez les mâles, à l'époque, on parlait toujours de donjuanisme, alors que les femelles, on osait parler d'infidélité, ce qui, en termes scientifiques, était quand même assez gonflé. Hein, les femelles ne seraient pas fidèles, ce serait vraiment des méchantes vilaines. Les mâles, par contre, ils feraient simplement preuve de beaucoup de gentillesse. Et c'était dans les textes. Et c'est elle qui a précisé qu'il fallait plutôt utiliser le terme d'exogamie. Donc elle a écrit tout un texte là-dessus, oui, qui est tout à fait intéressant.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Ces remarques-là sont des remarques féministes. Mais par contre, le travail scientifique qui consiste à prendre du recul par rapport à cette vision n'est ni féministe, ni...
De vrai.
Il est scientifique.
Il est scientifique.
Il est simplement scientifique. Oui. Donc, je crois qu'il faut le voir comme ça. Alors, il y a un autre endroit où le vocabulaire nous gêne, c'est dans les noms des titres, des diplômes et des fonctions. Quand on est maîtresse de conférence... C'est difficile à faire accepter. On vous explique que quand même, maîtresse de conférence a une petite connotation sexuelle qui est gênante, alors que pour maîtresse d'école, qu'est-ce qu'elle t'a dit la maîtresse ce matin ? Ça ne pose aucun problème à qui que ce soit sur le plan de la sexualité. Quand on parle d'enseignante-chercheuse, beaucoup de mes collègues se présentent comme enseignante-chercheur. Parce qu'enseignante, ça va pour une femme. Mais chercheur, c'est quand même un peu trop noble pour être féminisé. Et ainsi de suite.
Et pourtant, la féminisation des noms de métiers est évidemment ce qui permet de faire apparaître que ces métiers sont accessibles.
Tout à fait. Et dans des expériences qu'on a pu faire en présentant à des jeunes des noms de métiers typés, genrés, comme infirmière, aviateur, par rapport à d'autres listes où on mettait infirmier, infirmière, aviateur, aviatrice, ou simplement avec infirmier hier, aviateur, trice. On voyait que ces jeunes, quand on leur présentait la version masculin-féminin, choisissaient plus facilement de s'orienter vers un plus grand nombre de métiers que lorsqu'on genrait de façon classique les métiers.
Ouais, c'est intéressant, ça prouve qu'on est quand même piégé par les mots, quoi.
Et ce qui était très intéressant, c'est qu'on a vu que c'était intéressant pour les garçons comme pour les filles. Mmh. Donc personne n'a à y perdre, alors allons-y.
Eh bien sûr, c'est comme ça qu'il faut faire les choses. Il faut continuer dans cette féminisation.
Tout à fait. d'ailleurs, après les Pogues et Wildcats, qui remue un petit peu. Ça, c'est une musique que j'ai connue grâce à mes étudiants lors d'un voyage d'études en Grande-Bretagne. Et j'ai partagé avec eux le goût pour cette musique un peu sauvage et très revigorante que j'apprécie de pouvoir partager avec vous aujourd'hui.
Nous sommes toujours à la recherche de la place des femmes dans les sciences.
Remarque, il n'y a pas de problème. Sauf que ça pose un problème parce que étudier notre corps et connaître notre corps, ça relève de la science. Et ça, c'est un vrai problème que les femmes connaissent pas leur corps. Enfin, un peu quand même, ouais, savoir comment. Pour moi, la science, c'est comment ça fonctionne, expliquer et tout simplement comprendre pour pouvoir après, s'entretenir, se connaître. Le corps des femmes, il n'est pas connu des femmes.
Voilà. Tu crois que s'il y avait plus de femmes en biologie, on verrait la science différemment?
Parfaitement. En médecine aussi, en gynécologie obstétrique, voilà, notamment. Par exemple, notamment.
Et alors, ta fille, tu l'orientes pour faire des études scientifiques ou pas?
Ah, j'essaie de lui dire, j'essaye, parce qu'elle a une aversion pour ça, effectivement. Et j'essaie de lui dire que si on se l'approprie, on a aussi le pouvoir sur ce domaine-là.
D'accord.
Le pouvoir, pas la domination. Hein,
Merci beaucoup.
Alors évidemment, nous sommes toujours ici en présence du grand problème des femmes et de la science pour nous poser une question quand même importante aussi. C'est que quand on fait de la science, il faut bien publier, il faut bien laisser son nom.
Oui, c'est effectivement en France un problème, puisque la coutume est que les femmes abandonnent leur nom, dit nom de jeune fille, lorsqu'elles se marient. Alors, ça n'est bien sûr qu'une coutume, puisque pour la loi, bien entendu, c'est le nom de naissance qui est le seul nom valable. On passe du nom du père au nom du mari, hein, c'est jamais vraiment le vôtre, mais bon. Mais toujours est-il que dans une carrière de scientifique femme, on peut avoir plusieurs noms. Son nom de jeune fille, son premier mari, le deuxième, le troisième, ce qui complique un petit peu les choses et qui m'a amenée à inciter mes étudiantes à publier sous leur nom de naissance systématiquement ou au moins à le laisser en premier nom de façon à ce que ça ne pose pas de problème pour les retrouver ensuite dans les publications.
Alors, ce mois-ci, nous allons nous attarder sur des travaux de recherche, ou plutôt sur une anecdote un petit peu particulière, avec comme indiscrétion du jour, que faisait donc Florence Nightingale, pendant la guerre de Crimée?
Ah, Florence Nightingale, Florence Rossignol en français. C'est un joli nom, et c'est l'emblème des infirmières. Si les gens connaissent Florence Nightingale, c'est en tant que nurse dévouée auprès des braves soldats britanniques de la guerre de Crimée. Or, si Florence Nightingale a effectivement participé à la guerre de Crimée en tant qu'infirmière, c'est moins en tant que nurse qu'en tant qu'organisatrice. Et sa principale contribution a été de réorganiser l'organisation des soins. C'est mal dit, mais je pense que vous me comprenez.
Il faut dire qu'il y avait de quoi faire. Hein. Il y avait de l'organisation à reprendre pendant cette guerre.
Il y avait beaucoup d'organisation à reprendre. Et elle a constaté, elle, que les soldats mouraient essentiellement lorsqu'ils étaient dans l'hôpital à l'arrière, plus que directement des suites de leurs blessures. Et donc, c'était le manque d'hygiène et le manque d'organisation correcte de la répartition des soins et des malades, des blessés, qui posait problème. Et elle a fait ça par des études statistiques. Et pendant une grande partie de sa vie, elle a travaillé sur des statistiques, ce qui l'a amenée à être la première femme élue membre de la Société royale de statistique en 1860 en Grande-Bretagne. Or, ça n'est pas du tout ça qu'on met en avant. Et quand on représente Florence Nightingale, c'est vraiment dans ce qui est typiquement féminin, s'occuper des autres directement, s'occuper du corps des autres et très certainement pas de prendre le recul nécessaire pour arriver à une bonne organisation qui permette de sauver un très grand nombre de blessés et de malades d'une façon générale. Elle a même été invitée aux États-Unis, non pas en tant qu'infirmière, mais en tant que statisticienne. Donc c'est très surprenant qu'on ait gardé cette image uniquement de la nurse, qui n'est pas à gommer. Hein. Elle a fait un travail remarquable dans la mise en place d'écoles d'infirmières. Mais n'oublions pas que cette femme a eu un recul et un abord scientifique qui n'avait rien de typiquement féminin et qui d'ailleurs a été gommé.
Pizzicarella mia, pizzicarella, pizzicarella. pizzicata, non ti cerne, a tutti pizzicata, non ti cerne, tutto lo giro alla lillilla, tutto lo giro giro di la sottana.
Nous venons de vivre une petite séance de musicothérapie, une tarentelle. La tarentelle est une musique italienne qui avait pour objectif de soigner les gens piqués par les tarentules, des araignées, ou souffrant de différents maux, en leur faisant une musique endiablée qui était censée sortir le mal de leur corps. Alors, sortir le mal du corps, bon, on n'en est quand même pas là pour faire rentrer les femmes dans la science ou les sciences dans la femme, je ne sais pas dans quel sens ça doit marcher. Mais bon... On va essayer de voir comment les femmes choisissent leur orientation, pourquoi elles les choisissent, dans quel métier. Ces orientations, en fait, sont très, très genrées en France. Les jeunes filles s'orientent massivement vers les études littéraires ou sociales, alors que les garçons s'orientent plus facilement vers les sciences et vers les techniques. Les jeunes filles vont s'orienter plus facilement vers des études académiques et les garçons plus vers des études appliquées. Globalement, les jeunes filles réussissent mieux, réussissent plus vite. Par contre, elles s'insèrent beaucoup moins bien dans la vie professionnelle. Un autre aspect intéressant aussi, c'est que les familles investissent moins dans les études des filles que dans les études des garçons.
Financièrement, tu veux dire ou...
Financièrement, ouais. Et en termes de temps. Ouais. Donc, les filles vont moins redoubler parce qu'on les autorisera moins à le faire.
À faire, ouais.
Voilà, bon, c'est globalement, on investit moins. Alors, j'ai souvent pensé que ça pesait assez lourd sur les garçons, puisque dans des études qui ont été faites dans les étudiants en études supérieures, on a montré un taux de suicide chez les garçons plus élevé que chez les filles, et qui semblerait en relation avec l'attente de la famille et de la société qui pèse beaucoup plus sur un garçon en cas d'échec que sur une fille. Donc, c'est un peu cher payé aussi pour être plus bichonné et plus soutenu.
Comme quoi, la société patriarcale présente des défauts pour les deux sexes.
J'ai fait longtemps partie d'un réseau égalité des chances entre les femmes et les hommes au sein du ministère de l'Agriculture. Et c'est égalité des femmes et des hommes, ce qui veut dire des hommes aussi. Et il y a effectivement des domaines où, pour eux, c'est un peu lourd à porter. Mais pour revenir au niveau des métiers... Donc on a dit tout à l'heure que si on féminisait les noms de métiers, déjà ça aidait un peu plus à y aller. Je pense aussi que de les présenter et de présenter des modèles est quelque chose d'important. Quand dans une école, dans une université, tous les intervenants sont des hommes dans un domaine quelconque, comment les filles peuvent-elles penser qu'elles ont une chance d'y accéder ? Même inconsciemment, on se dit c'est l'expert et ce ne sera pas l'experte. Donc, et d'ailleurs, on nous déconseille de dire experte en disant experte. Là aussi, il y a une connotation sexuelle qui n'est pas très correcte. Moi, je tiens à être experte et à dégager ça de toute mauvaise interprétation du sens.
Oui, puis il y a le domaine d'expertise aussi, où on ne reconnaît pas nécessairement les... C'est aussi un peu genré, ça.
Oui, le domaine d'expertise est genré. Et ce qu'on va retrouver aussi, c'est qu'on va retrouver... le fait qu'il y a un frein vers ce qui est proposé aux femmes en termes d'expertise, de promotion, de représentation de son équipe de recherche, par exemple, parce qu'on se fait une représentation masculine ou parce qu'on pense qu'elle ne sera pas capable. Et inversement, les femmes qui l'ont intériorisée et qui d'elles-mêmes vont penser que non, c'est masculin et qu'elles ne sauront pas faire. Par exemple, pour les émissions de radio, hein, quand on nous demande « Est-ce que vous pouvez nous envoyer quelqu'un pour parler de tel ou tel sujet ?» D'abord, on demande un homme. Et si quelqu'un a par idée que peut-être une femme pourrait y aller, c'est vrai que très souvent, la première réaction est de dire « Bon non, moi je ne saurais pas, toi tu feras mieux. » Quand il s'agit de représenter le groupe, c'est la même chose. Avec mes étudiants, c'était assez frappant. Dans des travaux de groupe mixtes, quand on demandait qu'un rapporte le travail du groupe, mais c'était à grande majorité les garçons. Et chaque fois, on me disait « Ah mais non, c'est le hasard !» Ce qui me permettait de répondre au fil des années « Ah ben non, 25 ans, 30 ans, 40 ans de hasard, j'y crois pas. »
Ça commence à faire beaucoup de hasard.
Ça commence à faire beaucoup de hasard, tout à fait. Donc là, oui, il y a effectivement des difficultés. Et puis, quand on accède aux responsabilités, mais est-ce que pour autant, on a le titre, le grade et le salaire qui correspond ? Eh bien, les faisant fonction d'eux sont bien plus souvent des femmes que des hommes. Et là aussi, c'est une différence qui est assez marquée. Et quand on a la responsabilité, le titre et tout le reste, au bout du compte, les revenus sont différents. Alors... les revenus sont différents de l'ordre, je crois, de 5% en début de carrière, de 14% quand on arrive à la quarantaine. Et puis, plus on monte, plus il y a de différence au niveau des revenus, ce qui est quand même assez surprenant, puisqu'on pourrait penser que ce sont des métiers qui sont très cadrés et dans lesquels il n'y a pas de raison d'avoir de différence à ce niveau-là. Et ces différences vont se retrouver notamment sur tout ce qui est complémentaire, encadrement de thèse qui apporte un complément financier, responsabilité d'équipe, tous ces aspects qui vont cumuler et qui vont faire qu'au bout du compte, on arrive à une différence entre les hommes et les femmes. Alors, en science, mais dans tous les domaines de la recherche et de l'enseignement supérieur.
Oui, ce qui fait que les étudiantes, quand elles arrivent aussi à ce niveau d'études, sont aussi frappées par le fait que, malgré tout, leur chance d'obtenir par la suite une carrière raisonnable est forcément un peu plus faible que si c'était un homme.
Pas du tout. Elles arrivent complètement naïves, elles n'y croient pas.
Elles n'y croient pas.
Non. Elles sont dans le déni complet, elles pensent qu'il n'y a plus de problème, que le féminisme c'est une histoire de vieille.
Voilà.
Et non, non, il y a vraiment du travail à faire là pour faire prendre conscience qu'effectivement elles auront à se bagarrer et c'est quelque chose de difficile.
Hiya, Bobby. You wanna go for a ride?
Sure, Ken.
Jump in.
I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation.
Come on, Barbie, let's go party.
I'm a Barbie.
De retour sur 89.4 Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, où nous nous amusons à éplucher la biologie dans une émission faite pour tous les aventuriers et aventurières de la réflexion et autres dégourdis de la cervelle, science en liberté.
Bonjour Christelle, alors nous sommes ici en train de parler du problème des femmes et de la biologie. Est-ce que la biologie peut concevoir que les femmes soient des femmes et est-ce que les femmes peuvent s'imposer en biologie? Mais raconte-moi, il s'est passé des choses là récemment à Angers.
Oui, alors d'abord bonjour Thierry. Donc oui, nous sommes un collectif qui s'appelle D'égal à égal.
Ah, tu es un collectif.
Donc c'est plusieurs associations qui se sont regroupées parce que l'union fait la force, n'est-ce pas? Et donc nous luttons contre l'homophobie, la société patriarcale et le sexisme. Et il y a du boulot là-dedans et donc il y a plusieurs actions qu'on mène. Donc on est souvent là pour le 8 mars, on fait partie on est avec les Gay Pride quoi. Et aussi on organise des festivals, donc il y en a un qui s'est passé le week-end dernier, c'était donc la 3e édition.
Et d'égal
à égal. C'est un festival, en gros, où il y a des débats, des tables rondes. Le week-end dernier, c'était le fil conducteur. C'était donc la femme au travail, ses inégalités et ses violences. Donc,
oui, parce qu'il y en a des inégalités.
Et ben oui, et des violences aussi. Et donc des tables rondes, donc des débats avec des expositions, des ateliers enfants, des spectacles et un rassemblement, un ralliement qu'on a fait à ce moment-là. Donc ça s'est passé le week-end dernier et c'est pas fini parce que nous organisons aussi une marche non mixte de nuit, donc pour les femmes. Donc c'est marche, c'est pour lutter contre les violences faites aux femmes. C'est par rapport au 25 novembre où c'est la journée de la lutte contre les violences faites aux femmes. Et nous, donc, on fait ça le 22 et on fait donc une marche donc pour revendiquer l'espace public qui est pris aux femmes. Et donc notre slogan, c'est la nuit nous plaît, on veut sortir en paix.
Bravo.
Voilà. Et donc cette marche donc n'est non mixte, mais c'est pas contre les hommes, c'est justement pour symboliquement.
Oui, pour que les femmes s'approprient la rue, quoi.
Voilà, c'est ça. Et donc ça commence à partir de 19h. Ça se trouve à Fleur d'Eau. Donc c'est du côté de la rue Plantagenêt, entre la rue Plantagenêt et la rue Baudrière. C'est l'espace des Halles, l'anciennement des Halles. Donc ça s'appelle Fleur d'Eau à Angers, bien sûr, à Angers. Et donc, au départ, ça commence à 19h, il y aura une prise de parole et on va partir pour la marche avec des slogans et des chansons. Voilà, donc c'est le 22 novembre à Angers, à Fleur d'Eau, à partir de 19h.
Eh bien, venez nombreuses. Merci beaucoup, Christelle. À bientôt.
À bientôt.
Alors nous voilà maintenant arrivés à un stade tout à fait crucial de cette émission fantastique où j'ai invité Elisabeth Ramoris pour nous parler du problème énorme de la place des femmes dans la science. En fait, on a vu que les femmes avaient évidemment toute leur place dans la science et que cette question ne reflétait que l'ensemble des préjugés de notre monde contemporain. Mais ça se verrait peut-être encore plus si on imagine ce qu'on disait il y a quelque temps encore de l'enseignement agricole, n'est-ce pas Elisabeth ?
Alors oui, l'enseignement agricole. L'enseignement agricole, a priori, je le disais tout à l'heure, un vétérinaire, c'est un homme. Et puis je disais aussi que bah oui, ce sera 70% des filles. L'enseignement agricole est en train de se féminiser plus vite encore que l'enseignement médical. Ça n'a pas toujours été le cas. Et on a souvent longtemps pensé que les difficultés physiques pouvaient empêcher de travailler dans ces métiers de la même façon que dans d'autres domaines, dans le bâtiment, dans l'industrie.
C'est une bonne nouvelle, les filles, il y a du boulot dans l'agriculture. Maintenant, la mauvaise nouvelle, c'est que c'est dur physiquement, non ?
Alors, il y a du boulot dans l'agriculture, je pense que là, il faudrait peut-être un petit peu tempérer, ça dépend où et ça dépend pourquoi. C'est difficile physiquement, bah oui, travailler c'est difficile, c'est inaccessible, non. Je ne pense pas que ce soit plus difficile de travailler dans l'agriculture que d'être infirmière et de retourner un malade. Ça me semble à peu près du même ordre de difficultés physiques.
Mais c'est un préjugé qui est longtemps resté l'argument majeur pour empêcher les femmes d'accéder à certains métiers.
Alors, ce que j'ai constaté, moi, en tant qu'étudiante, puis en tant qu'enseignante, c'est que le préjugé est plus chez les gens diplômés que chez les agriculteurs ou les ouvriers agricoles.
Ah, ça, on s'y attendait pas. Hein.
Chez les ouvriers agricoles, en fait, ils ont l'habitude de voir travailler les femmes dans les fermes. Donc, ça ne les choque pas. Par contre, quand on monte un petit peu dans les hiérarchies, au niveau des ingénieurs, il a fallu assez longtemps pour accepter de nous voir. Au début, il fallait qu'on se transforme en homme, qu'on soit habillé en homme. Et encore actuellement, bon, dans certains secteurs, oui, dans d'autres, non. Et de toute façon, moins payé.
Ouais, ça joue beaucoup quand même. Et avec la vie privée et la vie professionnelle, il y a également des problématiques particulières.
Alors, ce n'est pas particulier ni à l'emploi en secteur agricole, ni à la recherche dans les domaines de biologie. Je pense que c'est en fait très, très général. Et moi, je m'y suis plus intéressée au niveau de l'enseignement supérieur et de ses débouchés. Mais effectivement, cette articulation vie privée, vie professionnelle est quelque chose de très important. On en a parlé tout à l'heure à propos des médecins qui n'acceptent plus les horaires et la dépendance complète qu'ils avaient par rapport à leur métier. Mais c'est un peu général. Je pense à une de mes anciennes étudiantes qui avait été embauchée dans un très beau métier d'ingénieur technico-commercial avec pas mal de déplacements et qui vient me voir complètement harassée en me disant « Mais comment je peux faire ? Je rentre le samedi chez moi, il faut que je reparte le dimanche soir dans un autre pays. Quand est-ce que je mets mes vêtements au pressing et quand est-ce que je remplis mon réfrigérateur ?» Et effectivement, je crois que là, il va falloir qu'on change un petit peu cette vision des choses, mais aussi bien pour les garçons que pour les filles. Là, il y a vraiment un problème. L'autre problème, c'est l'organisation de la journée. On a en France une particularité qui est qu'on considère qu'un bon cadre est celui qui reste tard le soir et qu'une bonne réunion est une réunion qui déborde largement sur les horaires.
C'est souvent le cas. Hein.
Voilà. Alors, les universitaires en savent quelque chose de ces réunions qui commencent à 19h et qui se finissent à point d'heure et qui, de fait, éliminent les femmes qui, elles, se sentent obligées de rentrer à la maison.
Oui, pour
alors je dis « se sentent obligés » parce que, en fait, nous avons intégré que c'est à nous de gérer le domestique. Bien souvent, je me suis reprise moi-même en me disant « mais le père de mes filles, il sait faire aussi, et si je m'appuie un peu plus sur lui, il ne dirait pas non. » Et d'ailleurs, quand je lui demande, il ne dit pas non.
C'est là qu'on voit qu'on peut faire preuve de science d'un côté, de démarche scientifique, et d'un autre côté, d'être un peu parfois goujat, ou voire en tout cas rester dans une phallocratie dominante.
Je ne pense pas que ce soit de la goujatise, je pense qu'on est très emprunt on est très emprunt des usages d'un mode de vie, et qu'on a du mal à s'en détacher. Et que, aussi, je dirais, du point de vue féminin, il y a un pouvoir. S'occuper des enfants, c'est une forme de pouvoir que peut-être nous ne sommes pas prêtes à partager autant qu'il le faudrait. Et du côté des garçons, la perception n'est pas encore suffisante de ce pouvoir et de ce plaisir. Donc, mais là, on dépasse largement femmes et sciences.
Mais ça n'amène quand même pas si facilement que ça à la question essentielle qui est quand est-ce que nous aurons encore plus de femmes prix Nobel ?
Parti mourir, la tête dans le vent, comme on part un sourire entre les dents. Les femmes ça part pas, ça meurt à petit feu. Une femme ça reste et ça pleure pour deux. Il fallait qu'il s'en aille, il est pas revenu. Il a eu sa médaille, mon amour inconnu. Des honneurs à la noix, et quand la mort s'est tue, il a reçu sa croix, mais moi je n'ai rien eu. Vitam aeternam, j'aurai pas ma statue. Je n'étais que la femme du soldat inconnu. Ad vitam aeternam, j'aurai pas ma statue. Je n'étais que la femme du soldat inconnu. Ils sont là chaque année, à son bon souvenir. Moi pendant des années, je n'ai rien vu venir. Pourtant, mort fille,
même quand la vie dure. On meurt même au milieu des pots de confiture. Je l'ai faite ma guerre, mais entre quatre murs. C'était une autre guerre avec notre armure. Je l'ai fait traverser de l'indo à toute heure. Y'a pas que les fusils qui déchirent le cœur. Advie d'un éternel, j'aurai pas ma statue. Je n'étais que la femme du sol inconnu. Advie d'un éternel, j'aurai pas ma statue. Je n'étais que la femme du sol inconnu. La vie que de la prendre. Une guerre où la mort ne veut jamais se rendre. Moi aussi je l'ai faite, et même en souriant. Et c'était pas la fête, tout le temps. Il fallait qu'il s'en aille, il est pas revenu. Il a eu sa médaille, mon soldat inconnu. Déshonneur à la noire. Et quand la mort m'a prise, je n'ai eu que l'honneur de la femme soumise. Advitam aeternam, j'aurai pas ma statue. Je n'étais que la femme du sol inconnu. Advitam aeternam, j'aurai pas ma statue. Je n'étais que la femme du sol inconnu. Advitam aeternam, j'aurai pas ma statue. Je n'étais que la femme du sol inconnu. Advitam aeternam, j'aurai pas ma statue. Je n'étais que la femme du sol inconnu. Advitam aeternam.
Alors, à cette époque, à ce moment de la journée, pouvons-nous dire, Elisabeth, la science a-t-elle encore peur des femmes?
Ou alors, les femmes ont-elles encore peur des sciences?
Bonne question, en effet.
On peut toujours retourner. Moi, je rêve de quelque chose. Il y a quelque temps, on avait fait faire un travail à des enfants en leur demandant « dessine-moi un scientifique ». Et on avait eu des merveilleux dessins de docteur Tournesol, de savant Cosinus. Alors, un scientifique, c'était quelqu'un de vieux, ça avait des lunettes, ça avait une blouse blanche, une barbe, et c'était dans un laboratoire avec des tas de choses qui fumaient et qui semblaient dangereuses. Et je rêve qu'on dessine-moi un scientifique et que ce soit une femme. Alors, je dirais certainement pas une pin-up pour pas tomber dans le cliché des vendeurs de voitures, mais... un peu comme avait fait il y a quelques années à l'occasion de la fête de la science à Angers, on avait fait une exposition sur les scientifiques et angevins et on présentait des photos de chacune d'entre nous dans son laboratoire et dans sa vie quotidienne pour montrer qu'en fait les scientifiques c'est des gens
variés, différents.
Tout à fait, qui peuvent s'intéresser à des sujets très différents et qui par contre font leur métier avec une certaine passion, que ce soit de la recherche ou d'autres aspects de la science, parce qu'en fait, je crois que c'est ça qui est intéressant, c'est le plaisir qu'on peut avoir à faire de la science, et ce plaisir qui soit pas réservé soit aux femmes, soit aux hommes uniquement, partagé. On a vu que les différences de point de vue que peuvent apporter les hommes et les femmes peuvent être intéressants, encore que je suis un peu dubitatif sur la question, parce que je pense que le point de vue, il est différent parce qu'on a été formaté différemment.
Ouais.
Mais moins ce formatage sera prégnant et plus on aura une approche de scientifique, tout simplement.
C'est ça, la démarche scientifique pourra enfin être quelque chose de lucide et de plus réel.
Exactement. Je crois que ça pourrait tout à fait permettre
d'aller
vers l'avenir.
Merci Elisabeth Ramoris, scientifique engagée, présidente du planning familial 49 et qui m'a donc accompagnée pour cette émission et m'a expliqué un peu en quoi la question était très mal posée. Les femmes et la science n'est pas une question qui doit se poser de cette manière-là, car évidemment l'esprit n'a pas de sexe, comme affirmait François Poulain de la Barre. Bonnard, qui a rédigé en 1673 de l'égalité des deux sexes, discours physique et moral, où l'on voit l'importance de se défaire des préjugés. C'est probablement le premier des manifestes où on dénonçait l'injustice du traitement qui était réservé aux femmes. Il faut noter quand même, pour se faire plaisir, que c'est un Français qui l'a écrit et qui proteste contre l'interdiction qui est faite aux femmes de poursuivre les mêmes études que les hommes. Et pourtant, ce n'est pas incroyable de constater que la question de l'égalité des genres dans l'éducation reste encore d'actualité en France et dans bien d'autres pays. L'exigence d'émancipation de la société humaine n'est donc pas une mince affaire. Voilà, je recevais donc aujourd'hui une scientifique, Elisabeth Ramoris, avec qui nous nous sommes entretenus de l'importance des femmes dans la science. Merci Elisabeth, à bientôt peut-être pour une nouvelle émission, qui sait ?
Merci, à bientôt.
Auditrice, auditeur intrépide, vous pouvez nous contacter en téléphonant au studio ou par l'email de l'émission sciencelibre@gmx.fr, sciencelibre au singulier @gmx.fr, et nous aurons le plaisir de vous retrouver comme tous les quatrièmes lundis de chaque mois entre 18h et 19h30 sur 89.4 Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, pour continuer à décortiquer la biologie et toutes les idéologies qui l'accompagnent. Donc ainsi se finit cette émission de Science en Liberté. Elle était animée par Thierry Laudet avec la complicité de Christelle, de Siona et de Monique à Paris. La musique d'introduction est de Hicham Chahidi. Et nous allons conclure sur un groupe angevin, Lojo, la Taberna del Domingo.
Bajo la melena de una ciudad blanca.